Paris-Berlin, il est 15h, 14h en temps universel. Sur RFI, le journal est présenté par Olivier Sherman. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. En Syrie, la fin de l'opération militaire dans l'ouest du pays, annonce faite par les autorités syriennes. Les combats ont fait près d'un millier de morts, dont la grande majorité étaient des civils alaouites tués dans des exécutions sommaires. Témoignage dans un instant d'un membre d'une ONG qui raconte depuis Damas ce que ses collègues vivent sur place. L'autorité palestinienne dénonce une escalade dans le génocide des habitants de la bande de Gaza après l'arrêt par Israël de la fourniture d'électricité à la seule centrale de dessalement d'eau du territoire. Cela intervient au moment où débutent à Doha des négociations sur la poursuite du cessez-le-feu. Enfin, entrée en vigueur aujourd'hui des surtaxes douanières imposées par Pékin sur de nombreux produits agricoles américains. C'est la réponse de la Chine après les nouvelles taxes imposées par les Américains sur les produits chinois importés. La Syrie annonce donc la fin avec succès de l'opération militaire dans l'ouest du pays. Les violences sont les plus graves en Syrie depuis la prise du pouvoir par une coalition dirigée par les islamistes qui a déposé le président Bachar al-Assad. Les combats ont fait près de 500 morts des deux bords, mais près d'un millier de civils, en grande majorité alaouites, ont été tués dans des exécutions sommaires et des opérations de nettoyage ethnique. Présents sur place, des membres de l'ONG, Federico Giacchetti, directeur du bureau syrien de l'ONG, sont touchés par ces violences depuis Damas. Ce directeur du bureau syrien raconte ce que ses collègues vivent.
Our staff have been witnessing burning of houses, looting.
Notre personnel a été témoin d'incendies de maisons et de pillages. Les maisons de certains membres de notre personnel ont été fouillées, des hommes et des femmes de leur foyer ont été interrogés et menacés. Il y a aussi des membres de la famille de notre personnel qui ont été tués. Et notre personnel n'est pas en mesure de les atteindre et d'enterrer leurs corps parce qu'ils ont trop peur d'être dehors, par crainte pour leur propre sécurité.
Federico Giacchetti, directeur d'un bureau syrien d'une ONG, interrogé par Elisa Robuchon. L'autorité palestinienne dénonce une escalade dans le génocide des habitants de la bande de Gaza après l'arrêt par Israël de la fourniture d'électricité. Londres demande la fin de cette restriction. L'Allemagne est aussi extrêmement préoccupée par cette coupure d'électricité. Le Hamas dénonce, lui, un chantage mesquin et inacceptable, car cette coupure d'électricité intervient au moment où, à Doha, au Qatar, une délégation israélienne est attendue dans la journée pour des négociations indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu à Gaza avec le Hamas. Et en Arabie Saoudite, l'Ukraine se prépare à des discussions cruciales avec les États-Unis. Et dès aujourd'hui, le président Volodymyr Zelensky rencontre le prince héritier Mohammed Ben Salman pour préparer la réunion de demain à Jeddah entre une délégation ukrainienne et une équipe américaine. Première déclaration sur la messagerie cryptée Telegram du président ukrainien. L'Ukraine cherche la paix depuis la toute première seconde de la guerre, écrit-il. Et nous avons toujours dit que la seule raison pour laquelle la guerre se poursuit est la Russie. La réunion de demain va tenter de définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial entre la Russie et l'Ukraine. La délégation ukrainienne proposera une trêve dans les airs et en mer avec la Russie lors de ses négociations avec les États-Unis. La Russie a accusé deux diplomates britanniques d'espionnage. Ils ont deux semaines pour quitter le pays. Londres rejette les allégations contre ces diplomates, les jugeant sans fondement. Ces deux personnes sont les premiers diplomates occidentaux à être expulsés de Russie depuis que Moscou et Washington ont ouvert des négociations sur le rétablissement du personnel des ambassades américaines et russes. Une collision entre deux bateaux en mer du Nord, au moins 32 blessés selon un premier bilan et un risque de pollution. Un pétrolier et un cargo sont entrés en collision au large des côtes du nord-est de l'Angleterre, provoquant un gigantesque incendie. Les secours sont toujours en intervention en ce moment. La guérilla colombienne de l'ELN a accordé une rare interview réalisée dans un lieu secret dans la montagne près de la frontière vénézuélienne. Il s'agit de la première interview que le front de guerre du Nord-Est accorde aux médias depuis le début des affrontements dans la région à la mi-janvier. Deux hauts commandements de la guérilla y affirment que la confrontation se poursuivra face à toute action militaire de Bogota. Explication Anne Verdaguer.
Les deux commandants sont assis, fusils à la main, autour d'eux une trentaine de personnes lourdement armées. L'un d'entre eux, qui se présente comme Ricardo, explique que l'ELN n'hésitera pas à combattre les 10 000 soldats de l'armée régulière colombienne rassemblés dans les environs.
Si davantage de militaires continuent d'arriver sur le territoire, il est fort probable que la confrontation persiste, parce que nous allons nous défendre en tant que force insurgée. Nous allons défendre notre histoire, accumulée depuis 50 ans dans le Catatumbo. Cette paix totale dont parle Petro se transformera finalement en guerre totale.
L'ELN, d'inspiration guévariste, mène une guerre contre l'État colombien et prend pour cible depuis la mi-janvier des dissidents des FARC dans la région du Catatumbo pour le contrôle des routes du trafic de cocaïne, ce que nie la commandante Silvana.
Nous avons besoin d'une économie qui ne nous stigmatise pas comme le fait l'État colombien en nous mêlant au narcotrafic. La politique de paix de Petro a été un échec. À ce stade, alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois au pouvoir, il n'a plus qu'une seule carte en main. Un prétendu dialogue avec ce groupe, le gang des FARC.
Les violences dans le Catatumbo ont officiellement entraîné le déplacement de près de 56 000 personnes et fait une centaine de morts.
Entrée en vigueur aujourd'hui des surtaxes douanières imposées par Pékin sur de nombreux produits agricoles américains. Une décision qui est une mesure de rétorsion face aux nouvelles taxes imposées il y a une semaine par Donald Trump sur les produits chinois importés. Les précisions de Myriam Berber.
C'est un coup dur pour les agriculteurs américains. Le poulet, le blé, le maïs et le coton vont voir leurs tarifs douaniers augmenter de 15%. Le sorgho, le soja, le porc, le bœuf, les produits de la mer, les fruits, les légumes ainsi que les produits laitiers seront moins surtaxés, 10% seulement. Les autorités chinoises suspendent également les importations de bois américain, invoquant des inquiétudes liées à des parasites, ce qui pourrait représenter un total de 22 milliards de dollars de produits agricoles. Les producteurs américains de céréales, de lait ou de viande sont inquiets. Les exportations vont baisser fortement. En 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, la guerre commerciale avec Pékin avait entraîné des pertes de 27 milliards de dollars compensées en grande partie par des aides fédérales. Washington avait versé 23 milliards d'aides aux agriculteurs.
83% des programmes de l'agence de développement USAID, qui représente une part conséquente de l'aide humanitaire mondiale, vont être supprimés, annonce du chef de la diplomatie américaine, 6 semaines après le gel de l'aide américaine décidé par Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche. Plusieurs organisations à travers le monde affirment déjà subir les conséquences de ce gel, que ce soit pour la lutte contre le sida en Afrique du Sud ou au Kenya, ou les soupes populaires au Soudan, pays ravagé par la guerre. Marc Carney sera le futur Premier ministre du Canada. Il va remplacer Justin Trudeau, qui avait présenté sa démission en janvier dernier. Dans sa première déclaration, il est monté au créneau contre Donald Trump, assurant dans un discours offensif que son pays gagnera et ne fera jamais partie des États-Unis de quelque façon que ce soit. Une première réponse au président américain qui a lancé une guerre commerciale avec son voisin en imposant des droits de douane sur des produits canadien. C'est un procès inédit qui s'est ouvert ce matin en France. Il vise une enseignante de français jugée pour harcèlement moral sur l'une de ses élèves, une collégienne de 11 ans, Eva L., qui s'était suicidée en 2019 chez elle. Un tel procès est une première en France. Delphine Meillet, l'avocate des parents d'Eva L.
Elle n'a pas été suffisamment prise en charge, et ce n'est pas moi qui le dis, mais le ministère de l'Éducation nationale qui a reconnu partiellement sa responsabilité en disant « Effectivement, nous n'avons pas su suffisamment prendre en considération le harcèlement dont était victime Eva L. » Et quand il parle de harcèlement, il parle de harcèlement des élèves et du harcèlement de la professeure. Il y a une défaillance de l'administration, et elles sont nombreuses et structurelles. Il y a un manque de sensibilité à cette époque, à ces sujets. Il y a un esprit de corps qui pousse les personnels, et enseignants, et pédagogiques, et administratifs, à faire bloc contre les parents. Et il y a un manque de suivi des procédures de lutte contre le harcèlement qui était en fait un pis-aller, c'est-à-dire qu'on prétendait les initier, mais il n'y avait aucun suivi. On est dans une administration où il y a plus de 1 million de personnes qui interviennent. Il est inévitable d'avoir quelques individus qui se comportent mal ou qui ne sont pas à leur place. Il est impératif de les sanctionner quand ils font des fautes, mais ça suffira pas à empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Il faut comprendre toute la chaîne de causalité qui a tué Eva L.
Delphine Meillet, l'avocate des parents de la jeune fille qui s'est suicidée, interrogée par Baptiste Coulon. Toujours à l'écoute de Radio France Internationale, tout de suite Charlie Dupiot, autour de la question.